La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Ce lundi vers 13h, comme de coutume, des dizaines de caméras et de micros s'agglutineront devant le restaurant parisien de Rouen afin de diffuser en direct l'annonce par le président de l'Académie Goncourt du nom de son lauréat pour l'année 2017. À lui seul, cet événement annuel a longtemps pu symboliser la mise en spectacle de la littérature. Mais le fait que celui qui prendra la parole lundi, comme depuis quelques années le président du jury Goncourt, soit Bernard Pivot, souligne probablement l'une des transformations majeures de cette mise en spectacle. C'est en effet à partir d'apostrophes dans les années 70 qu'on peut dater l'entrée dans une nouvelle ère du spectacle littéraire. C'est en tout cas l'hypothèse de Vincent Kaufmann dans un nouvel essai qui s'intéresse à ce que les médias font à la littérature. Vincent Kaufmann est donc mon invité aujourd'hui à la suite dans les idées. Pour la deuxième partie, il sera rejoint pour un dialogue par Jean-Max Collard, qui est critique d'art, commissaire d'exposition, responsable du service de la parole au Centre Pompidou et qui avait à ce titre organisé il y a quelques semaines, début septembre, un festival titré Extra, qui est un festival de la littérature hors du livre. Mais on commence avec vous, Vincent Kaufmann. Vous êtes professeur de littérature et d'histoire des médias à l'université Saint-Gall en Suisse. On vous doit un livre sur l'aventure de la théorie littéraire, La faute à Mallarmé. On vous doit un livre récent, vous y avez mis en parler également, Des héritages, sur la question de la transmission des héritages en littérature et plus largement en art, puisqu'il y était aussi question de cinéma. Et puis on vous doit, il y a maintenant plus de 15 ans, un livre important, je crois, considéré comme une référence, Guy Debord, la révolution au service de la poésie. Alors c'est vers Debord, d'une certaine façon, que vous retournez. D'ailleurs, il suffit de regarder la couverture de ce nouveau livre qui paraît au Seuil et qui ne ressemble pas du tout au livre du Seuil, on dirait un livre publié aux éditions Champ Libre, un livre avec une couverture grise, une typographie noire, on dirait aussi un peu les couvertures des œuvres complètes de Debord, telles qu'elles ont été publiées par les éditions Fayard depuis quelques années. Dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature, c'est le titre de ce livre. Je voudrais qu'on parte, Vincent Kaufmann, de ce que je soulignais dans mon chapeau, à savoir que pour vous, on a basculé au fond dans une nouvelle ère médiatique avec, bon ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais enfin, grosso modo, avec apostrophe, avec ce spectacle à la télévision, grand public, tous les vendredis soirs, qui a donné à voir à des générations entières, des écrivains invités à parler de leurs livres et à se présenter aussi au public. Pourquoi c'est pour vous un moment charnière, Vincent Kaufmann ?
Je crois que c'est lié à la montée en puissance de la télévision comme média de masse. La télévision s'impose à partir de la fin des années 60 et au cours des années 70. C'est évidemment très très difficile de donner une date précise. Certains historiens des médias associent le moment où la télévision devient vraiment totalement incontournable au passage à la couleur. On peut aussi prendre le moment du premier débat politique entre deux candidats à la présidentielle en France. C'était en 74. Je crois que c'était le premier en Europe d'ailleurs. Aux États-Unis, ça vient toujours un petit peu plus tôt. C'était 1960. Donc il y a tout un contexte où la télévision s'installe comme un média incontournable, comme le média qui finalement produit le plus de pouvoir pour ceux qui y ont accès, que ce soit les politiciens, mais aussi toutes sortes d'autres personnalités. Et c'est un moment où, par voie de conséquence, la culture de l'imprimé, la culture littéraire, va commencer à être en quelque sorte satellisée par la télévision. Il y a une sorte de première étape dans l'histoire des rapports entre littérature et télévision où c'est la télévision qui va chez l'écrivain, qui rend visite au grand écrivain, on le filme dans ses meubles, dans son jardin.
Pierre Dumayet et Pierre Desgros.
Voilà, exactement. C'est Dumayet et Desgros, lire, c'est vivre. Et puis, il y a cette inversion qui est une inversion de l'influence, du pouvoir, où dorénavant, avec l'émission Apostrophe par exemple, ce sont les écrivains qui vont à l'émission de Pivot et qui vont bientôt se bousculer au portillon pour ça.
Alors ça, c'est un basculement. Il y en a un deuxième qui est intervenu après et dont nous sommes les contemporains depuis quelques années, à savoir ce qu'on appelle la mutation numérique, qui elle aussi produit des effets collatéraux sur la littérature, comme l'a fait et continue de le faire la télévision. On y viendra. Mais je voudrais qu'on reparte de Guy Debord et de ce mot de spectacle que vous avez choisi de faire figurer en titre de cet essai, Dernière nouvelle du spectacle. Vous dites dans ce livre, Vincent Kaufmann, que au fond, l'aspect théorique de Debord n'est pas ce qui vous a intéressé chez cet auteur, qui est par ailleurs un auteur important pour vous, dont vous admirez l'œuvre. Et cet aspect théorique pose des tas de problèmes. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce que veut dire Debord quand il parle de spectacle. Or, aujourd'hui, il est un peu réduit à ce concept. Un concept qui peut être utile à condition, c'est un peu votre entreprise ici, de l'actualiser. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelles sont ces dernières nouvelles du spectacle? En quoi ce mot, ce concept de spectacle peut nous être utile pour penser les rapports littérature-télévision?
Alors, c'est vrai que le concept debordien de spectacle a toujours été assez complexe, difficile et peut-être flou parce qu'extrêmement synthétique et large. Si on essaye de le réduire à une formule, je dirais que pour Debord, le spectacle, c'est ce que la société marchande veut nous faire croire et nous faire faire. On pourrait résumer les choses comme ça. Alors, je pense que 50 ans plus tard, puisqu'il y a effectivement une sorte d'anniversaire, là aussi, et le clin d'œil de la couverture va évidemment dans ce sens aussi, 50 ans plus tard, il est nécessaire de redéfinir le spectacle. Je suis personnellement pas du tout convaincu par cette approche finalement très marxiste de Debord. Je pense pas qu'il y a derrière le spectacle un agent qui serait la société marchande, la bourgeoisie, qui nous manipulerait plus ou moins comme une mafia. Debord le dira dans d'autres textes. Je crois que la spécificité du spectacle aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant d'en parler par rapport à la littérature, c'est que le spectacle est devenu comme autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus au service de la société marchande, il est à son propre service, tout simplement parce que avec l'évolution de la télévision et ensuite surtout le numérique, nous avons basculé dans une économie de l'attention et de la visibilité dans laquelle l'attention ou la visibilité qu'on peut avoir, c'est quelque chose de très précieux. Ça a une valeur et c'est d'ailleurs une valeur monétisable la plupart du temps. Si vous êtes une personnalité visible, les chances sont assez bonnes pour que vous deveniez riche aussi d'une manière ou d'une autre. Donc on est dans cette économie de la visibilité et dans cette économie-là, le spectacle roule pour son propre compte. Et le but du spectacle, c'est devenu de produire de la visibilité. Et la littérature elle-même est satellisée par cette dynamique, je crois.
Si je vous comprends bien, le spectacle a été autrefois, du temps de Debord, d'une certaine façon, au service de la marchandisation d'un certain nombre de biens de consommation courante. Il faut préciser que ce livre de Guy Debord, qui paraît en 1967, est aussi le produit des Trente Glorieuses, d'une certaine façon,
exactement,
de cette économie
oui.
de la consommation de l'après-Seconde Guerre mondiale qui triomphait. Aujourd'hui, on serait entré dans une époque où finalement, le spectacle n'est plus au service de ces produits et de ces marchandises, mais le spectacle est lui-même constitué, a été commodifié en quelque sorte. Il est constitué de produits spectaculaires qui sont en vente pour eux-mêmes et en eux-mêmes. C'est
exactement
cette autonomisation oui. dont vous parlez. Et l'un des traits forts, c'est la bagarre pour l'attention. Vous dites, on est, et vous rejoignez en cela des réflexions, je pense au travail d'Yves Citon qui est venu en début d'année ici et qui poursuit cette réflexion sur l'économie ou l'écologie, lui dit-il, de l'attention. Évidemment, ça a partie liée avec la télévision, mais ça a partie liée de façon plus générale avec la publicité, Vincent Kaufmann. On peut dire que d'une certaine façon, cette économie d'attention, elle naît même au 19e siècle avec l'invention des journaux commerciaux, puisque en fait, on va vendre à des annonceurs l'attention des lecteurs. Donc évidemment, tout ça se trouve peut-être renforcé peu à peu avec ces nouveaux médias électroniques.
C'est vrai qu'on peut dire que dès qu'il y a eu de la publicité dans les journaux, on était dans une économie de l'attention avec des éditeurs qui vendaient
du temps de cerveau disponible.
Exactement, l'attention de leurs lecteurs à des annonceurs. Ce qui a changé et qui fait que l'économie de l'attention devient quelque chose d'incontournable, c'est l'inflation de l'information. C'est qu'on n'a plus 3 ou 6 chaînes de télévision et 2 journaux pour s'informer. On a 600 chaînes. journaux plutôt moins, mais à côté, il y a Internet avec absolument tout qui est disponible. Donc, plus il y a inflation au niveau de l'information, plus, bien sûr, notre attention devient la chose précieuse. Parce que la seule chose qui ne change pas, c'est que nous avons toujours 24 heures par jour pour nous informer. Donc, c'est cette situation qui fait que cette économie de l'attention est aujourd'hui particulièrement importante.
Alors, évidemment, la télévision va jouer un rôle décisif. C'est pas hasard. Je rappelais la formule de M. Lelay, à l'époque dirigeant de TF1, sur le temps de cerveau disponible, parce que c'est par hasard si c'est un dirigeant de la plus grosse chaîne de télévision française qui le dit, lui, de la manière la plus, à la fois la plus crue et la plus compréhensible par tout le monde. Je voudrais qu'on revienne sur la télévision. Vous associez, au fond, le tournant apostrophe, dont on a dit quelques mots, avec la montée en puissance dans le monde littéraire. Et s'agit-il d'un effet collatéral, vous parlez, de ce qu'on a pu appeler l'autofiction, en tous les cas, de la mise en scène de soi par les écrivains dans leurs écrits. Une mise en scène de soi dans leurs écrits qui viendrait, en quelque sorte, faire écho à la mise en scène de soi qu'on leur enjoint de produire en se déplaçant dans ce studio de télévision dont vous parliez tout à l'heure, Vincent Kaufmann.
Tout à fait. Je crois qu'il y a effectivement une sorte de convergence ou de congruence qui s'explique par le fait que à partir du moment où on entre dans une économie de l'attention, que l'attention ou la visibilité est quelque chose de précieux, il faut payer le prix. On va pas vous donner de la visibilité comme ça parce que vous en voulez. Il faut payer le prix et ça ne se paye pas en argent. Ça se paye en parlant de soi, en exposant son intimité, en acceptant éventuellement d'être humilié dans une émission de télé-réalité, etc. Il y a toute une batterie comme ça de processus consistant à payer de sa personne. Et je crois que cette économie spectaculaire en tant que telle favorise le tournant autobiographique. Pas seulement le genre autofiction qui est peut-être un cas particulier, qui est peut-être aujourd'hui déjà un petit peu en bout de course, peu importe. Je crois qu'il y a un tournant autobiographique. On veut voir l'écrivain et on veut le voir parler de lui-même. C'est un petit peu ça la tendance. Et je crois que oui, c'est pour cette raison qu'il y a effectivement un tournant autobiographique, une espèce de résurrection de l'auteur après les années mortes de l'auteur. Ça va très vite, hein. La mort de l'auteur, elle est officialisée par Barthes en 69, je crois, si je me souviens bien. Donc, en quelques années, on va passer d'une éthique de la littérature où c'est la langue qui parle, où il y a une sorte de retrait de l'écrivain par rapport au texte, par rapport à l'œuvre. Ça va là aussi basculer dans le contraire et on en arrive finalement à des situations où on peut imaginer des écrivains qui ne font plus que semblant d'écrire, mais l'essentiel serait de se promener sur les plateaux de télévision, quoi.
Alors, pour alimenter votre réflexion sur cette évolution des effets des médias sur la littérature, évidemment, vous vous arrêtez sur un certain nombre de parcours d'auteurs, non pas tant sur leurs textes d'ailleurs, que sur un certain nombre d'épisodes liés à leur prise de parole publique, par exemple, ou à la réception de leurs travaux. Mais avant qu'on en vienne peut-être à quelques noms qui vous semblent emblématiques et que vous regardez d'un peu plus près, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce que vous appelez la grammaire du spectacle. Parce que vous distinguez de façon analytique, et avant même de donner ces noms, au fond, les différentes manières dont on peut décomposer ce nouveau régime, en quelque sorte, imposé à la littérature par les médias, un régime qui s'appuie sur, par exemple, dites-vous, la comparution, la culture de l'aveu, l'authenticité, la transparence, le sacrifice. Alors, si on en reprend quelques-uns, la comparution, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on fait une émission, on convoque les écrivains, ça devient une forme d'habitude, on les convoque dans une situation où ils sont amenés, peut-être de plus en plus, à se confesser, d'où cette idée de culture de l'aveu.
Oui. C'est la comparution et l'aveu, c'est évidemment deux choses qui sont très très proches. Le spectacle, il invite et il va demander à ceux qui l'invitent « qu'est-ce que vous avez à déclarer ? Pourquoi nous vous inviterions, vous, plutôt que les autres ?» Donc il faut justifier sa présence, il faut avouer, et c'est là que il y a la possibilité de monnayer son intimité en quelque sorte. Et puis bien entendu après il y a une sorte de continuité entre cette culture de l'aveu et un certain nombre de mises en scène dans des émissions, des talk-shows où les chroniqueurs, comme on les appelle, ont tendance à fonctionner comme des procureurs. Il y a une sorte de là aussi de proximité avec des dispositifs juridiques très souvent dans cette culture de la comparution propre au spectacle.
Alors, on poursuit la métaphore juridique. Dans les tribunaux, sont aussi appelés à témoigner des experts qui vont venir certifier l'authenticité. L'authenticité, voilà une valeur qu'on trouve aussi au centre de cette grammaire, Vincent Kaufmann.
Oui, l'authenticité, c'est très important. Je crois que c'est une des caractéristiques essentielles du spectacle. Alors, j'ai donné tout à l'heure une sorte de résumé de la conception de Debord du spectacle. Je pourrais dire que dans ce livre, ma conception du spectacle, ça consiste à partir de l'idée que le spectacle, il faut le voir pour y croire. C'est-à-dire qu'il faut de l'authenticité pour que le spectacle soit bon. Donc il faut qu'il s'y passe de véritables événements, il faut que des gens soient humiliés ou il faut qu'ils aient été victimes de quelque chose, il faut qu'il y ait de l'agressivité, de l'agression. Le spectacle déteste la fiction, par exemple, comme il déteste de manière plus générale, je crois, le discours. Quelqu'un qui veut se présenter dans le spectacle au nom d'eux, en tenant un discours politique au nom des autres, ça va pas du tout. Il faut qu'il parle de lui-même, de ce qui lui est arrivé, de sa souffrance, de ses malheurs, etc. Le spectacle est très très friand de ça. Il faut qu'il puisse montrer, vous voyez, c'est vrai, c'est arrivé à quelqu'un ou bien c'est en train même d'arriver à quelqu'un si on pense à des formats comme la télé-réalité par exemple.
Alors évidemment tout ça mène à l'idée de sacrifice, vous l'avez dit oui. À plusieurs reprises, il faut payer de sa personne, il faut être humilié, l'humiliation joue. Alors évidemment la télévision elle, en elle-même est une culture et s'hybride, je dirais, hybride les différentes formes qu'elle propose, c'est-à-dire qu'on va voir des effets de la télé-réalité sur des émissions qui ne sont pas des émissions de télé-réalité et qui sont des émissions culturelles, par exemple. C'est pas comme s'il y avait une forme d'étanchéité entre toutes ces formes. Et la télé-réalité devient, pour vous, l'une des formes culturelles dominantes de cette sphère médiatique.
Oui, tout à fait. Il y a une sorte de collatéralité des effets du spectacle. Ça se balade la télé-réalité à l'autofiction, ou peut-être que ça vient de l'autofiction et ça se termine en télé-réalité, mais on retrouve exactement les mêmes principes dans des talk shows, on retrouve les mêmes principes et d'ailleurs les mêmes personnalités dans un certain nombre d'émissions politiques. Ça circule vraiment d'un format à l'autre. On pourrait continuer un petit peu sur cette lancée et constater aujourd'hui qu'il y a aussi évidemment une transformation de la littérature, des formats qui vient par exemple des séries télévisées. Il y a de plus en plus de très longs romans, d'histoires compliquées. Donc entre tous ces différents formats, ces différents supports, les choses circulent énormément.
Mais on pourrait dire d'ailleurs, puisque vous prenez cet exemple, que les séries télévisées elles-mêmes viennent du feuilleton du 19e siècle et que, oui, au fond, revient à la littérature ce qui venait de la littérature. Ça m'amène à vous poser une question que je me suis beaucoup posée en vous lisant Vincent Kaufmann, parce que vous faites attention, vous dites en permanence, mais je ne porte pas de jugement qualitatif, je ne fais qu'observer ce qui se passe. Néanmoins, on sent dans votre ton parfois, non pas une nostalgie, non pas une mélancolie, mais une ironie certaine à l'égard des tours que peuvent prendre désormais l'univers littéraire, pour le dire rapidement. Mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas parfois un peu victime de l'illusion d'un âge d'or qui n'a jamais véritablement existé, c'est-à-dire d'une époque où la littérature aurait été quelque chose d'à part, un continent à part. Et donc, la question que je me posais sans arrêt, c'est de me dire, mais plutôt que se demander ce que les médias font à la littérature, on pourrait aussi se demander comment les médias font la littérature et ont toujours fait, au fond, la littérature. Les médias ont fait les feuilletons dont nous parlions tout à l'heure, et donc les grands romans du 19e. Ils l'ont fait, je veux dire que les modèles économiques des journaux ont fait les formes littéraires. Et que aujourd'hui, on va trouver par exemple que le marketing a envahi la littérature, que les auteurs sont transformés en VRP d'eux-mêmes en allant à la télévision. Mais il y a quelques semaines, on apprenait à la faveur de la découverte d'une vente aux enchères d'un exemplaire d'un livre de Marcel Proust, que Marcel Proust lui-même s'était fait le meilleur attaché de presse qu'on puisse imaginer, puisqu'il avait soudoyé des amis critiques pour écrire des choses formidables sur son œuvre, qu'il avait lui-même écrit sous pseudonyme des critiques de ses propres livres, qu'au fond, cet agent de relations publiques qu'on connaît aujourd'hui, qui est central dans le monde littéraire, mais il existait sous d'autres formes, peut-être des formes rudimentaires, des formes préhistoriques.
Oui, bon, alors ça fait beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, là.
Mais c'est toujours le même, c'est-à-dire, au fond, mais disons, l'antériorité de toutes ces questions.
C'est une question difficile, je ne suis pas du tout sûr d'avoir, là, toutes les réponses, mais disons, c'est quand même toujours un petit peu difficile d'imaginer Marcel Proust à On n'est pas couché. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait compatible. Bon, mon ironie, elle porte, je crois, sur une chose très précise. Elle porte sur le fait que on fait comme si la littérature était toujours la même chose. Effectivement, j'essaye de décrire des changements. J'essaye de montrer comment, avec un nouvel écosystème médiatique, le statut de la littérature change. Et j'essaye de décrire les changements, effectivement, sans jugement de valeur, sans nostalgie. Je suis d'ailleurs convaincu que l'histoire ne repassera pas les plats et que c'est comme ça, la littérature a été quelque chose et je pense qu'elle est en train de devenir autre chose aujourd'hui. Ça, j'en reste convaincu, ça n'est plus la même chose, elle n'a plus la même fonction dans notre monde, dans notre société. Le statut de l'écrivain a énormément changé, il a énormément perdu de son prestige. Qui aujourd'hui attend de l'écrivain quelque chose comme un magistère intellectuel, une direction morale, j'ose même pas dire politique, enfin l'écrivain engagé politiquement, ça semble assez anachronique aujourd'hui. Si on compare, je sais pas, à la posture d'un Sartre il y a 50 ans encore. Donc l'écrivain a énormément perdu de son aura, de son prestige, et par conséquent, ses fonctions ont changé, et je crois qu'on peut décrire ces changements, même si par ailleurs, le marketing ou l'auto-marketing a certainement toujours existé, même s'il existait effectivement au 19e siècle des Dumas et d'autres qui écrivaient des feuilletons. Là, j'en suis tout à fait conscient, mais je crois qu'au niveau de ce que nous attendons de l'écrivain, les choses ont énormément changé. Qui aujourd'hui attend d'un écrivain qu'il le fasse véritablement penser? Qui en attend, je sais pas moi, quelque chose comme une vérité? Proust, non seulement sur l'art, mais je sais pas moi, sur le désir et la jalousie, c'est incontournable. Si Proust était rayé de la carte, disparaissait, eh ben il nous manquerait quelque chose. Je suis pas sûr qu'il nous manquera grand-chose si les finalistes du Goncourt de cette année ou de l'année passée disparaissaient comme ça d'un coup. On est dans une littérature qui est quand même très très largement une littérature de divertissement. On ne parle que d'émotions partout dans la critique littéraire. C'est ça l'attente principale. La littérature, ça fait rire, ça fait pleurer, ça fait peur. Occasionnellement, avec Fifty Shades of Grey, ça fait bander. Hein. On est dans une toute autre fonction de la littérature qui a encore 30 ou 50 ans. Et ça, je crois qu'on peut le dire, il y a des choses qui changent, et on peut le dire sans nostalgie, sans mélancolie.
Alors, par exemple, une chose qui change et qui a pu changer et qui n'a, de mon point de vue, aucune espèce de conséquence sur la qualité littéraire des œuvres produites, c'est que la littérature étant une activité sociale parmi d'autres, elle est produite par des gens qui vivent dans la même société que nous, qui ne sont pas touchés par une sorte d'inspiration qui viendrait de l'extérieur. Et donc quand on entend, je raconte cette anecdote puisqu'elle l'a raconté plusieurs fois, Marie Darrieussecq dire que petite fille, il lui est arrivé de jouer à apostrophe avec ses poupées et que sa vocation littéraire, d'une certaine façon, elle peut la faire remonter à ce type de jeu enfantin. Je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux. D'abord, c'est une forme de réflexivité que je trouve intéressante sur l'époque, sur les raisons qui font que on peut devenir écrivain. Alors certes, tous les écrivains n'ont pas cette réflexivité. Mais il y en a un qui, d'une certaine façon d'ailleurs, est symptomatiquement un peu absent de votre livre, peut-être parce que c'est le plus réflexif de l'époque par rapport à ça. C'est évidemment, je dis évidemment parce que ça me semble une évidence, Michel Houellebecq, Vincent Kaufmann.
Oui, je suis d'accord avec vous que c'est le plus représentatif. Si je pense à des écrivains qui auraient une espèce de lucidité sur le spectacle, qui auraient une capacité de l'analyser avec leurs moyens de romancier, c'est évidemment Houellebecq qui vient le premier à l'esprit. Donc je crois que c'est tout à fait possible d'imaginer des écrivains qui ont une capacité analytique par rapport au spectacle. Et disons, je ne m'en suis pas occupé parce que ça devient très rapidement complexe et je crois franchement que ce serait l'objet d'un autre livre. Enfin, écrire un livre sur les analystes du spectacle et ceux qui résistent au spectacle. C'est beaucoup de travail, je crois.
Alors, puisqu'il est question de Michel Houellebecq, on va écouter un extrait du dernier album paru avant l'été de l'un de ceux, si ce n'est celui qui lui a permis de mettre la littérature en spectacle jusque sur la scène de l'Olympia. Je veux parler de Bertrand Burgala, Diagonale du vide.
Bien, messieurs, dans quelques instants, notre train intercité desservira la gare d'Argenton sur Creuse avant de descendre. Rassurez-vous de ne rien oublier à votre place. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que la descente du train doit impérativement s'effectuer sur le quai et à l'arrêt, nous tentons de faire de descendre sur le train est en cours. Mesdames, messieurs, nous souhaitons une bonne soirée. Argenton sur Creuse.
Une bande de territoire à faible densité, une beauté locale sur un écran tactile, des femmes sans hommes. Rêve d'enfant de forêt, désir à forte intensité dans le désert français. Elle m'a donné rendez-vous sur le parvis d'une nouvelle cathédrale de la consommation. Et m'a dit tu verras scintiller à son fronton un point américain serti dans un néon. Zéro signal. Aucune voile à l'horizon, j'entends sonner les cloches d'un clocher disparu, disparu.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Ce que les médias font à la littérature, c'est le sous-titre du livre de Vincent Kaufmann dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Ce livre, c'est Dernières nouvelles du spectacle, il paraît aux éditions du Seuil. Et pour en parler dans cette deuxième partie, j'ai appelé à comparaître, puisqu'on évoquions la comparution des auteurs et des écrivains, appelé à comparaître Jean-Max Collard, qui est critique d'art, commissaire d'exposition, qui est responsable du service de la parole au Centre Pompidou. Et si je l'ai appelé à comparaître, c'est pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles tient au fait que précisément, il connaît à la fois le monde de l'art contemporain et celui de la littérature, y compris de la littérature fort ancienne, puisqu'il est spécialiste de la littérature du XVIe siècle au départ. Mais ce qui m'intéresse, c'est, dans cette deuxième partie de l'émission, toujours d'éclairer, au fond, avec un autre mode de connaissance, un même objet. Or, il m'est apparu depuis longtemps que pour comprendre certains des enjeux de la littérature contemporaine, le monde de l'art permettait d'y voir plus clair. Parce que, à bien des égards, ce monde de l'art contemporain a essuyé les plâtres, en quelque sorte, a inauguré un certain nombre de ces changements. Et donc, ce qu'on vient de dire à propos des écrivains, on aurait pu le dire à propos de beaucoup d'artistes. Et le nom d'Andy Warhol serait probablement apparu très vite dans notre discussion, Jean-Max Collard.
Oui, sauf que c'est vrai que, je dirais, le champ de l'art n'a pas eu son apostrophe. D'une certaine manière. Évidemment, Warhol a été une figure très importante qui a marqué, je dirais, ce nouveau statut, je dirais, médiatique, ce statut médiologique, comme le dit Vincent Kaufmann, de l'artiste.
Il y a eu les publicités pour le chocolat, l'envin de Dali. Il y a eu quand même des artistes à la télévision. Je parlais de Warhol.
Il y a eu des artistes à la télévision. Il y a eu des artistes qui font de la télévision, qui ont fait de la publicité de manière évidente. Et donc, évidemment, ils se sont lancés assez tôt dans cette situation. Mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas eu apostrophe, il n'y a pas eu ce moment, je dirais, qui, on voit pas l'influence de la même manière. Je dirais que les artistes sont dans les médias, utilisent aussi les médias, les détournent, font de la vidéo, Nam June Park fait des clips, enfin bon. Il y a aussi toute une manière d'entrer peut-être aussi dans la plasticité du médium, qui fait que c'est évidemment largement différent.
Et alors, il y a peut-être une autre chose qui est différente, c'est la possibilité d'une peinture autobiographique. C'est pas évident, c'est pas aussi facile, peut-être, que dans le cas, justement, de l'autofiction ou du roman autobiographique.
En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont moins appelés à comparaître, ils sont aussi moins dans le discours, donc effectivement. Donc, c'est pas le même statut, même s'ils ont beaucoup donné d'eux-mêmes.
Alors l'autre raison qui m'a fait penser à vous demander de venir dialoguer avec Vincent Kaufmann aujourd'hui, c'est que vous avez organisé un festival nouveau au Centre Pompidou en cette rentrée, qui s'appelle Extra, et qui s'affiche comme un festival de la littérature hors du livre. Or, dans son livre, Vincent Kaufmann dit « Le livre n'existe plus, il n'y a plus que des bouquins. Or, la littérature était étroitement attachée à cette idée matérielle, mais pas seulement, du livre. Alors, quel rapport et en quoi cette lecture vous a intéressé, fait vous interroger sur cette disparition du livre au profit du bouquin, sur finalement le fait que la littérature investisse du coup d'autres formes, d'autres lieux peut-être ?
Alors, effectivement, le Festival Extra, qui est ce festival de littérature du livre, je dois dire, a été beaucoup nourri par des réflexions qui étaient celles de Vincent Kaufmann. Le chapitre 5 de La faute à Mallarmé, qui sont les considérations médiologiques, est un chapitre qui m'a beaucoup activé, je veux dire. Mais je pense aussi aux réflexions de Lionel Ruffel, qui a d'ailleurs participé au Festival Extra. Je pense à son frère David Ruffel, qui parle d'un nouvel entertainment littéraire dans un numéro de littérature, de la revue Littérature, qui s'intéressait aux littératures hors du livre. Et donc, effectivement, moi, je suis assez intéressé par le livre de Vincent Kaufmann et par tous ceux qui enregistrent ce changement, cette nouvelle configuration de la littérature. Et aussi chez les auteurs qui sont lucides et qui entrent en lucidité sur le fait qu'effectivement, certains continuent à faire l'auteur, comme vous le dites vous-même, sur des plateaux télé ou sur des plateaux télé où ils viennent au nom d'un livre qui a été même parfois déjà publié, mais ils viennent, je dirais, un peu les mains vides parfois aussi. Mais disons qu'ils jouent encore le rôle de l'auteur, alors qu'évidemment, il y a d'autres auteurs que moi je trouve aujourd'hui assez passionnants et qui sont largement lucides sur cette nouvelle situation de l'écrivain. Je pense par exemple à quelqu'un comme Christophe Fiat, qui accompagne beaucoup ses lectures de solos musicaux et qui a eu cette phrase assez remarquable: nous serons plus entendus que lus, par exemple. Alors, le Festival de littérature hors du livre, au fond, voulait prendre acte de ça, voulait justement prendre acte du fait que c'était un festival non plus du livre, ça n'est pas un salon du livre, c'était un salon de cette nouvelle vie littéraire que vous décrivez en partie, c'est-à-dire le fait que, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation où le livre peut être envoyé tout seul dans l'espace public, et l'auteur, aujourd'hui, a besoin, je dirais, d'accompagner son livre, d'aller dans les bibliothèques, d'aller dans les médiathèques, d'aller à la télévision, d'aller à la radio, de soutenir en quelque sorte le cheminement d'un ouvrage. Et donc, il y a cette condition exposée, il y a cette condition médiatique de l'écrivain que vous évoquez très bien, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont certains auteurs, eh bien, prennent à bras-le-corps cette situation et essayent aussi d'en faire une nouvelle création littéraire. Et le fait qu'il y a toute une littérature qui se produit dans d'autres formes, il y a des auteurs qui écrivent des textes pour des pièces sonores, qui écrivent des textes pour des performances sonores, il y a un art de la lecture à voix haute qui reprend, je dirais, en quelque sorte une actualité. Bref, c'est pas simplement, alors c'est peut-être, est-ce que ce sont les effets collatéraux de cette transformation médiatique, ou c'est tout simplement, effectivement, cette vaste reconfiguration de la littérature aujourd'hui à laquelle on assiste. Et c'est vrai que nous, on voulait faire un festival de cette nouvelle vie littéraire.
Alors, c'était la première édition, il y en aura une l'année prochaine.
J'espère bien, oui.
Voilà. Vincent Kaufmann, sur cette capacité qu'ont, faut-il encore les appeler des auteurs, des écrivains, des artistes, en tout cas, à évoluer dans cet environnement et à inventer de nouvelles formes. À la fin de votre livre, vous en citez quelques-uns qui vous semblent rappeler comme en écho les expériences dadaïstes. Vous citez en particulier Kenneth Goldsmith, qui a écrit ce livre Uncreative Writing, qui sera bientôt traduit aux éditions Jean Boite en France. Mm-hmm. Un éditeur qui va développer beaucoup de choses en ce sens. Donc on sent que ça bouge un peu quand même.
Oui. Moi, je trouve très intéressant tout ce que vous venez d'évoquer, Jean-Max Collard, parce que ça pose le problème de l'événement, littéraire aujourd'hui. Et c'est comme s'il y avait au centre quelque chose qui ne suffit plus, parce que le livre s'est peut-être avarié en bouquin. Hein, il y a une sorte de pratique de la littérature qui, en tant que telle, s'est essoufflée, a perdu de son autorité, de son prestige. Il y a aussi tout le contexte numérique qui fait qu'on est dans une culture de la reproductibilité sans original, etc. Et donc tout ça conduit à cette espèce d'affaissement, je crois, de la figure traditionnelle de l'auteur. Alors il y a d'un côté ce dont je parle dans ce livre, qui est la possibilité de la spectacularisation, qui a aussi beaucoup à voir avec un retour à l'événement. Le spectacle vit d'événements. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres formes d'événements qui sont possibles. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce dont vous parlez, c'est-à-dire que si on parle d'une espèce d'événementialisation de la littérature, ça n'est pas nécessairement de la spectacularisation. Le spectacle, c'est une forme très précise d'événement qui suppose justement justement cette grammaire sacrificielle. Mais j'imagine que dans le festival Extra, vous ne faites pas boxer les écrivains les uns contre les autres, comme ça. Donc on peut imaginer des événements beaucoup plus doux, beaucoup plus différenciés, qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Mais il y a sans doute aujourd'hui cette espèce d'envers dialectique du marché littéraire qui est le besoin de... peut-être d'une présence, d'une parole. Hein. Vous êtes responsable d'un service de la parole. Je trouve que c'est une très belle dénomination. On pourrait dire aussi que mon reproche à la littérature spectacularisée en général, ces écrivains qui font semblant que c'est toujours la même chose, c'est que il y a plus de prise de parole, ce sont les fonctionnaires d'un marché du divertissement. Et la question qui se pose avec ce que vous avez évoqué, c'est comment reprendre parole, en fait.
Alors, oui, j'entends bien, je pense aussi au fait que dans le festival, il y avait aussi évidemment des artistes. D'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage qui s'appelle « La tentation littéraire de l'art contemporain ». Et il y a aussi tout ce phénomène où on voit toute une littérature se produire en dehors du champ littéraire. On peut penser à Sophie Cal, qui vient d'ouvrir une exposition au Musée de la Chasse et de la Nature, qui est ponctuée de textes. Pendant le festival, il y avait cet artiste qui s'appelle Julien Bismuth, qui venait tous les jours écrire une page d'écriture, ça durait 30 minutes, et il écrivait donc en public, donc on était complètement sur cette littérature spectacularisée, mais en même temps, c'était un vrai moment d'écriture, de réflexivité de cet artiste écrivain qui écrivait en direct sa page sur son ordinateur. C'était un moment absolument magnifique parce qu'on était en même temps dans une solitude de l'écrivain au milieu de l'économie spectaculaire. C'était vraiment très fort. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à ces questions, toute cette littérature qui se produit en dehors du champ, c'est que ça participe aussi de la reconfiguration du monde littéraire où, effectivement, les bornes du littéraire deviennent beaucoup plus flottantes et que, évidemment, il y a de la littérature en dehors du champ littéraire tel qu'on le voit à la télévision, etc., et peut-être une littérature parfois plus intéressante, ou prenons encore l'exemple de la poésie. La poésie n'existe pas dans le champ littéraire. Elle n'existe pas économiquement et elle existe très très peu auprès du public. En revanche, quand vous allez dans l'art contemporain, des gens comme John Giorno ont une exposition entière au Palais de Tokyo, Bernard Hatzik est une figure très importante, la poésie joue un rôle et circule dans l'art contemporain d'une manière très intéressante. Et c'est assez passionnant de voir une littérature se produire en dehors d'un champ littéraire qui effectivement joue peut-être à sa propre survivance.
Et le contre-champ, peut-être de ce que vient de dire Jean-Marc Scola, et qui est parfaitement complémentaire et qui fait écho à votre réflexion, Vincent Kaufmann, sur la disparition du livre remplacé par le livre jetable, puisqu'il y a même en Allemagne une émission de télévision dont vous parlez où on jette littéralement les livres à la poubelle. Donc ce que vous appelez les bouquins font que finalement les livres sont devenus des objets à protéger, des objets qu'on retrouve dans les musées, et on peut voir comme un symptôme de ça le fait que l'un des chapitres de l'exposition à la Biennale de Venise cette année de Christine Massel était dédié aux livres, et qu'on voyait par exemple des peintures d'une artiste Liu Ye qui sont des peintures de couverture par exemple du Lolita de Nabokov dans son édition originale publiée à Paris. Donc le livre devient quelque chose comme une relique d'une autre époque célébrée par des artistes.
Moi, je dirais surtout, ce qui est intéressant dans la situation du livre, c'est qu'il n'est plus en situation d'hégémonie. Et que, au fin de compte, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse chez nombre d'écrivains, c'est les écrivains dans lesquels le livre n'est jamais qu'un moment, qu'une étape. C'est-à-dire, le livre n'est plus l'alpha et l'oméga de la production littéraire. Et ça, c'est un point intéressant. Je pense par exemple à quelqu'un qui est assez passionnant comme Emmanuel Pirère. Bon ben, il va y avoir un livre, mais avant ça, évidemment, il y aura eu des performances, des chansons, enfin voilà, il y a toute cette économie artistique qui va passer par d'autres formes, et le livre va être un moment d'une production, mais ça, l'antécédence de ça, pour moi, c'était India Song de Marguerite Duras, sous-titré Texte, Théâtre, Film, qui est pour moi un sous-titre théorique, en de la part de Duras, et on est en 74-75, c'est-à-dire l'idée que, soudainement, le livre, effectivement, n'est plus... on est dans une économie de l'équivalence entre d'autres objets, et que le texte peut aller circuler dans d'autres médiums, etc. Et ça, c'est un point, je pense, assez important.
Vincent Kaufmann.
Un point qui me paraît très important aussi, vous y avez fait allusion avant en parlant de cet écrivain ou artiste qui écrivait seul au milieu du public. Je crois l'élément de solitude, de séparation, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut retrouver et qui, dans l'économie spectaculaire, est extrêmement difficile, voire impossible. Si vous imaginez l'écrivain contemporain, dans beaucoup de cas, c'est une injonction des éditeurs, il faut être sur les réseaux. Il faut communiquer avec les lecteurs, il faut leur répondre, et même parfois il faut accepter qu'ils participent, qu'ils donnent leur avis, etc. Donc la culture spectaculaire, de ce point de vue-là, c'est aussi une culture finalement de cours très socialisé, où cette position de retrait, de solitude qu'on associe peut-être à la poésie, tout genre et toute pratique artistique confondue, n'est pas possible. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à retrouver. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure à Sylvain Bourmeau que j'avais de la peine à imaginer Proust dans un talk show, parce que bien sûr qu'il s'est occupé de son marketing à l'occasion, mais en même temps Proust c'est la chambre de Liège, c'est le retrait, il écrit parce que concrètement la communication c'est pas son fort, voire même parce qu'il ne veut pas communiquer.
Mais certains écrivains dont la communication n'est pas le fort parviennent finalement à imposer leur rythme, leur diction à la télévision comme aucun autre. Je pense évidemment à Michel Houellebecq, mais aussi à Patrick Modiano, sont deux exemples saisissants de cette puissance de la posture littéraire par rapport à la machine télévisuelle. Ce sont très rares les personnes qui sont capables d'arrêter la machine télévisuelle. Alors, on n'a pas fait justice à tout ce qu'il y a dans votre livre, Vincent Kaufmann, notamment les récits d'affaires ou d'aventures assez rocambolesques. Je pensais notamment à cet écrivain suisse qui défend une conception borderline du journalisme et que vous interprétez un peu comme une revanche du littéraire ou de la fiction dans cet univers des médias.
Oui, c'est un personnage qui m'a fasciné, il s'appelle Tom Coomer. Il existe un film documentaire d'ailleurs sur lui qui s'appelle Bad Boy Coomer, je pense que ça se trouve assez facilement dans le commerce. Tom Coomer s'exile dans les années 90 à Hollywood et il produit de magnifiques interviews de toutes les stars de l'époque, de Pamela Anderson à Mike Tyson, en passant par tous les autres. Et pendant 5 ans, c'est vraiment la star de l'interview. Ces interviews paraissent dans des journaux suisse-alémaniques et allemands. Et au bout de 5 ou 6 ans, on s'aperçoit que ces 50 ou 60 interviews absolument géniales sont toutes des faux. Tout est inventé. Et je trouve que c'est une belle métaphore, disons là, une protestation contre l'affaissement de la fonction auteur. Hein, le journaliste conduit à écrire des choses totalement banales. Et peut-être derrière le journaliste, aujourd'hui aussi l'auteur, l'écrivain.
Merci Vincent Kaufmann. Je rappelle le titre de votre livre, Dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature, publié aux éditions du Seuil. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission, de la suite dans les idées. On trouve aussi la référence de ce festival dont peut-être il reste des traces sur le site du Centre Pompidou, en tous les cas qui préparera l'année prochaine, à la rentrée j'imagine aussi, une deuxième édition extra.
Une deuxième édition et la deuxième édition aussi d'un prix littéraire, le premier prix littéraire du Centre Pompidou qui s'appelle le prix littéraire Bernard Hatzig, Centre Pompidou, et qui est un prix pour une littérature hors du livre aussi.
Et qui est allé cette année
à John Giorno pour le prix d'honneur et à Caroline Bergvall, une performeuse, pour le prix 2017.
Voilà, merci à tous. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique aujourd'hui Eric Boisset, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour la première partie pour cette semaine d'une histoire particulière.